Hey, François Fillon, il y a mon gamin qui m'a posé une question. La croissance, est-ce que ça se mange ?
C'est magnifique, ça y est, la loi sur les OGM est passée et moi je trouve ça merveilleux, quoi. Voilà, les Français n'en veulent pas, les députés n'en veulent pas, l'Élysée en veut, ils tapent du poing sur la table et hop là, comme par magie, le texte repasse devant l'Assemblée et est voté à la majorité. Moi je trouve ça beau, quoi. C'est à peine une démocratie, quoi. C'est fou. Voilà, quoi. Et c'est merveilleusement cynique. Voilà, tellement cynique que ça m'en fait rire. Voilà, allez, au revoir, bonne continuation.
Mardi soir, 20 mai 2008, vu et entendu à la télé, notre président Sarkozy en meeting je ne sais où. Les dockers français travaillent 2000 heures par an. À Barcelone, ils en font 4000, ce qui explique qu'un conteneur sur trois qui arrive en France débarque dans un port étranger. Bien. Mais 2000 heures, cela représente 50 semaines de 40 heures, avec 5 journées de 8 heures et 2 semaines de congés. 4000 heures, cela fait 363 journées de 11 heures, plus une journée de 7 heures, plus un jour de repos. Sûr que les dockers français ont de la marge à rattraper. Curieusement, mon quotidien Sud-Ouest du 21 mai ne reprend pas l'information, ni les bulletins radio de France Inter. Salut Daniel, et tes AMG. C'était René, 73 ans, des Landes.
Oui, bonjour, la Bâtisse du Suisse, c'est Cyril d'Ardèche. Je vous appelle parce que là, je viens de me régaler, je me réveille et j'ai écouté l'émission d'hier via Internet et je me suis vraiment régalé avec cette émission. Je suis en plein dans la lecture de Chomsky, là, c'est génial, quoi, c'est extra. Et le plus génial, c'est que à la fin de l'émission, donc je suis repassé sur le direct de France Inter et là, je suis tombé sur la rubrique de Sylvestre qui essayait tant bien que mal de nous démontrer que la politique fiscale de l'État était la bonne, quoi. Donc c'est assez génial. Je trouve que c'est parfait, quoi. Bah encore bravo et à bientôt.
Salut, là-bas si j'y suis. Salut les AMG. Alors un tout petit renseignement, mais très généreux. Le jeudi 15 mai, le maire de la commune de Manzia, dans l'Ain, organise un service d'accueil pour parer à la grève du service public. Mais quelle ne fut pas sa surprise de constater qu'absolument aucun sur les 160 inscrits à l'école n'a été confié par leurs parents. Ils ont préféré affirmer à 100% leur soutien à leurs instituteurs. L'un des parents d'élèves a même déclaré une chose absolument superbe à un journaliste du Progrès. Quand il y aura un service maximum toute l'année, il n'y aura plus besoin de service minimum. Eh oui, monsieur le maire, vous et votre gouvernement qui souhaitez diviser les Français, vous qui souhaitez la société du tous contre tous, nous devons vous remercier. En effet, votre politique relance contre toute attente, solidarité et fraternité. Allez, ne lâchons rien. C'était Jean-Marie à Bourg-en-Bresse.
Écoute, Mermet, tu as peut-être tes relations à France Inter, tu rencontres peut-être les journalistes, celles qui diffusent les paroles de l'information nationale. Est-ce qu'il ne serait pas possible de demander à ces personnes d'éviter de dire la grogne des pêcheurs? Je ne connais pas les pêcheurs, moi je suis pas dans la... Mais enfin, ne pourrait-elle pas avoir un peu de respect et dire la contestation des pêcheurs plutôt que la grogne? Enfin bon. Allez, salut, ça n'a pas d'importance. Ciao.
Ouais, ouais, c'est vrai ça, la grogne, la marre. La grogne. Mais on avait fait campagne contre le mot grogne. Bon, ça n'a pas marché, on n'a pas écouté, voilà. Il faut bien constater, nous aussi, on est comme cet auditeur, bof. Oh là 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 là, bon, enfin bon, on va continuer quand même, hein. Voilà, jusqu'à 16h, au moins, aujourd'hui, puis après, on verra. Merci pour ces messages, amis modestes et géniaux que vous êtes, auditeurs. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, France Inter est en banlieue On est allé, voilà, franchir le périphérique, c'est une aventure formidable, formidable, de temps à autre. Ça vaut une journée spéciale, hein, de franchir le périphérique et non seulement d'aller en banlieue, mais pas dans n'importe quelle banlieue, pas les banlieues habituelles, mais les banlieues dangereuses, les banlieues de ces populations terrifiantes. Pleine de gens patibulaires, mais presque plus ou moins drogués, qui ont tendance à brûler des voitures. Et ben là, non, pas du tout. Aujourd'hui, on les voit gentiment. Ils sont gentils. Ils font des belles choses. Ils font des jolies chansons. Ils font des beaux habits. Ils montent des bonnes entreprises, etc. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Ils sont gentils. Pas tous, mais il y en a qui sont gentils. Et il faut les encourager. Et depuis ce matin, je vais vous faire une petite confidence. Depuis le temps qu'on se connaît, depuis ce matin, je pense à ma tante. Ouais. Figurez-vous, j'avais une tante qui était bonne sœur, qui était une religieuse, qui était exactement sœur de l'ordre de Saint-Vincent de Paul. Vous voyez, c'est bonne sœur avec des grandes cornettes blanches. C'était une dame admirable que j'ai beaucoup aimée. Et alors, mais avec des belles manières. Dans cet ordre-là, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, on avait des belles manières. Et de temps à autre, ma tante allait voir les pauvres. Et de temps en temps, elle m'emmenait. Pour moi, c'était pas très pittoresque, puisque je suis né dans ces coins-là, et dans des familles pas riches du tout. Mais c'était très amusant d'aller avec cette gentille et brave bonne sœur et voir son regard sur ces gens-là, la condescendance, la charité, et puis ce petit mot un petit peu en leur... en pinçant un petit peu la joue, l'oreille, et en encourageant ceux qui travaillaient bien, et puis surtout ne pas boire, il faut pas que le papa boive d'alcool, c'est très mauvais, pas de vin surtout, etc. Et puis des fois elle laissait un petit sou, pas beaucoup, mais c'était une présence et un encouragement. Je pense à ça depuis ce matin en écoutant France Inter. Donc voilà, Paris est allé en banlieue. Et c'est un événement. Ben nous, on va faire le contraire. Aujourd'hui, on va aller de banlieue à Paris. Voilà. De la banlieue où je suis né, à 7 km de Paris, à Paris, où je vis aujourd'hui. Et ben, pour franchir ces 7 km, j'ai passé quand même pas mal d'années. Et vous allez voir que ça semble ancien, cette distance. Et ben, on va voir avec ce reportage de Dilatebi que pour beaucoup de gens qui habitent en banlieue aujourd'hui, dans certaines banlieues, et notamment à la Courneuve, dans la cité des 4000, Paris est très très loin. Paris est très très loin de la banlieue. C'est notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à tous. Ici Isabelle, adulte handicapée. Suite à l'enthousiasme généré par la manifestation du 29 mars, ni pauvre ni soumis à Paris, plusieurs marcheurs handicapés de Franche-Comté ont souhaité organiser une action régionale pour relayer le mouvement et l'entretenir. Tous à Besançon, au centre-ville, sur la place Pasteur, les samedis 24 à partir de 11h et dimanche 25 mai. Il est encore temps de nous faire entendre. Après, il sera trop tard, nous resterons dans notre misère. Franche-Comté, lève-toi. À nous le Doubs, à nous la Haute-Saône, les Belforts et le Jura. Notre handicap peut devenir notre force. Signé du collectif des marcheurs du 29 mars.
Bonjour la Bastille, j'y suis. Bonjour les Parisiens du quartier Faubourg du Temple, hôpital Saint-Louis. Votre conseil de quartier vous convie à une soirée festive le samedi 7 juin 2008. Ça aura lieu dans le square Juliette Dodu, le jardin qui se trouve à l'angle des rues Juliette Dodu et Sandre et Meuse, dans le 10e métro Colonel Fabien.
Le soir du 29 mai 2005, autour de minuit par là, quand j'ai rencontré Antoine Chao, on a parlé matos. Il m'a dit qu'un magnétophone, il fallait compter 2000 balles. Il parlait en franc, hein. Il dit par là, tu peux avoir un truc bien à 2000 balles. Avec disquette maintenant, enfin je sais plus, avec CD là, je sais plus, c'est plus des cassettes quoi, tu vois. Plus le prix du micro. Bon. Et toi, t'en rajoutes pas un peu, Daniel, et alors en plus, il faut un ordinateur pour faire le mixage. Bon, alors on va avoir chacun un ordinateur dans la vie. Voilà. On va avoir chacun un ordinateur, chacun un téléphone portable, c'est-à-dire que l'homme du 21e siècle, c'est un homme qui a en plus qui est un ordinateur. L'homme ne se suffit plus, en fait. L'homme du 20e siècle avait une voiture en plus. Plus un téléphone. Oui, je sais, je m'enterre là du téléphone. Et puis, voilà, on a chacun son ordinateur, chacun son portable. Maintenant, on a un portable. Au lieu de... Ça devrait être des trucs... Il devrait y avoir des lieux publics pour ça, tu vois. Plutôt que de fabriquer beaucoup d'ordinateurs pour que chacun en ait un. C'est ça, mon rêve de société, tu vois, Daniel. Une société collective. Collective. C'est-à-dire, oui, au lieu de fabriquer des pléthores de machins, on en fabrique quelques-uns, et puis chacun s'en sert à son tour, quoi. Et pour ça, il faut des lieux, évidemment. Il faut des lieux. Des lieux publics. Et qui soient ouverts 24 heures sur 24. Il n'y a même pas besoin de gardien, parce que personne n'a envie de voler, puisque ça sert à tout le monde. Voilà, c'est ça mon reste de société. C'est pour ça que je risque de ne pas la connaître de mon vivant. Des fois, je me dis. Bon. Alors, est-ce que j'ai le temps d'ajouter autre chose? Non. Alors, je vais rappeler.
Ouais, Daniel, c'est ça, là, je t'appelle de Cayenne, en Guyane. Actuellement, on est en conflit, là, avec le rectorat. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas son revendication. Et donc aujourd'hui, on s'est tous réunis, on vient de toute la Guyane. Et on est devant le recteur ne veut pas nous écouter son revendication. Et on voulait le dire à tout le monde, on est motivés, on est une centaine. Et on ne laissera pas détruire l'école de service public. Voilà, rejoignez-nous avec le recteur, encore demain. Salut!
Bonjour, je suis Christine Lagarde, votre ministre. J'ai oublié de vous dire que le déficit était passé de 2,827 milliards en février à 4,752 milliards en mars 2008. Et là, je ne vous mens pas. Au revoir, mes amis. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Dilatébi, là-bas, si j'y suis, Paris, vue de banlieue.
Flight number 2, arriving from New York.
Le jardin. Des milliers et des milliers d'années.
Des milliers et des milliers d'années.
Ne saurait suffire pour dire la petite seconde d'éternité.
Petite seconde d'éternité.
Tu m'as embrassé.
Tu m'as embrassé.
Je t'ai embrassé. Un matin, dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris, à Paris, sur la terre, la terre qui est un astre.
Sur la terre qui est un astre. Le jardin.
Montruche, Paname, Paris. Paris aujourd'hui a perdu ses mystères de Paris. Le secret, le stupre, la perdition et cet insolite qui faisait vagabonder des nuits entières. Doineau et Prévert et Léon-Paul Fargue et Mercier, hérétif de la Bretonne et Breton, André Breton. Sur les pas de Nadja, de la promenade de Vénus à l'hôtel des grands hommes. Rappela-t-il le fantasme de Paris aseptisé? La ville est une étrange dame dont le cœur a le goût du drame, disait jadis une chanson. Le café crème n'a plus le goût que tu aimes, disait une autre. Paris a perdu ses mystères de Paris. Et depuis quand? Chacun porte en lui la date de son désenchantement, comme les vieux amants qui se souviennent du moment où... Moi, c'est les Halles, quand les Halles ont disparu. Alors pleurons des rivières sur le bon vieux temps des mystères de Paris. Paris n'est plus le pôle, ni cette épaule fine d'Arletty regardant Paris et disant que Paris est tout petit pour des gens qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Plus guère de chansons aujourd'hui. Fini les célébrations, les petits bals perdus, les ponts. Ces ponts où Louis Aragon voyait la promesse des bagues. Paris, disait-il, plus déchirant qu'un cri de vitrier. Aragon emporté, exalté, disant « Arrachez-moi le cœur et vous verrez Paris ».
N'empêche qu'il en reste encore du désir dans les regards pour cette ville et pour ses habitants et pour ses ruelles et pour ses enchantements. Il en reste encore. Et lorsque j'étais petit, moi qui suis né en banlieue de Paris, à 7 km exactement, il n'y a pas encore un monument, mais ça ne saurait tarder. Eh bien, Paris, pour nous, c'était tout. Bien plus que pour vous, amis provinciaux, beaucoup plus que pour vous, amis des campagnes, paysans qui aviez des terres, provinciaux qui avaient des villes. Pour nous, habitants des banlieues, de ces banlieues-là en tout cas, banlieues, non-lieues, banlieues de relégation, Paris c'était tout, c'était la conquête. Tout comme il y avait, depuis tout temps, il y a eu un bourg et des faubourgs, il y a eu autour de Paris, eh bien, au-delà des fortifs, au-delà du périphérique, pour reprendre le mot de Rizvani, des gens qui attendaient d'y entrer, des Rastignacs qui s'ignoraient et qui rêvaient d'un jour entrer dans cette ville mystérieuse, cette ville possible, cette ville des rencontres. La ville, c'est le possible. Et Paris restait quand même du possible. En tout cas, dans les regards de celle qu'on va entendre aujourd'hui et que Dila Tebi, notre ami Dila Tebi, est allé voir. Je racontais ça un jour à Dila, je lui disais, voilà, quand j'étais môme, Paris, c'était Paris. Et bien, il me dit, tu sais, moi, je connais des gens à la Courneuve, dans les 4000, vous savez, cette célébrissime cité des 4000, des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Paris. Et des gens qui peuvent raconter la première fois où ils sont venus à Paris. Alors, pour une fois, c'est pas Paris qui regarde du haut de ses certitudes, c'est ses banlieues qui regardent Paris. Et à travers ces regards, bien sûr, comme toujours, eh bien, c'est des gens qui vont dire qui ils sont, qui vont dire leur intégration, qui vont dire ce qu'elles, je dis elles, parce que c'est presque exclusivement, je crois à peu près exclusivement des femmes qui vont parler, que Dila a raconté, et qui vont nous dire ce Paris, leur Paris, aujourd'hui.
Aussi, j'ai une belle vue, c'est la 86. Mais bon, on voit Paris.
Pour moi, Paris, c'était la liberté, c'était la mixité, c'était sortir de la banlieue où la femme, ben, c'était un peu pour elle une prison. Je me disais, ben, à Paris, le beurre, ce ne sera pas sa prison, Paris.
J'ai besoin de vous, j'étais le Paris. Paris, Paris. J'étais le Paris. T'es brûlé, t'es haoussé. T'es brûlé, t'es skir. T'es brûlé, sillem. تبغي تعنق تبغي حبيبها ياك تبغي تعشق ياك جيت لباري باغي باغي ياك جيت لباري ياك جيت تحوس يا في بلا باغي يا ويلي مريولا يا ويلي كريولا يا وتبغي اللوطه هي Hey! Yeah!
Te décrire un petit peu, je suis au 13e étage dans une cité les 4000. Je vois Paris devant moi.
On voit même le RER là, qui va à Paris là.
Ouais, il va à Gare du Nord. Et tu vois aussi, j'ai une belle vue. C'est la 86. Mais bon, on voit Paris, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, bien entendu. Moi, j'ai toujours aimé Paris. J'y ai vécu de toute façon, bon, dans la banlieue, mais quand même, mes parents m'emmenaient énormément à Paris.
Alors, justement, hein. La première fois que tu t'es rendu à Paris.
Tu vois, j'habitais dans ce grand immeuble. Hein,
qui est en face de nous.
Qui est en face de nous, avec du linge un peu partout. Ouais. Hein. Et avec mon père, on est allé à Paris. Alors, bras dessus, mon père me donnant la main, je prenais le bus. On a fait toute l'allée, un petit quart d'heure hein, pour aller jusqu'au bus à pied et la découverte de Paris avec lui. Alors, mon père était pour qu'une fille reste une fille très coquette et les souvenirs, c'était les petites soquettes. Et les chaussures vernis noires, ça c'est avec la petite robe, les petites couettes, parce que j'avais les cheveux longs à l'époque. Ça c'était, ça c'est mon image d'enfance. Et avec les petites chaussettes à dentelle, mon cher ami, hein, attention.
Voilà.
Mon père était quelqu'un de très fier. Pour ça, c'était.
Ton père, c'est celui qu'on voit dans ton appartement, là, un grand portrait.
Ah ouais, ouais, ça, c'est.
Il est en uniforme.
Oui, parce que mon père était caïd, tu vois, en Algérie. Et en Algérie, c'était l'équivalent de préfet. Tu vois bien l'image, hein. Ouais. C'était quelqu'un de tirer toujours à quatre épingles. Et c'était ma fierté, quoi. Il y a cette image qui me revient et c'est quelque chose d'inoubliable. Mon père, toujours en dessous de la tour Eiffel avec moi, je suis blottie avec lui et cette peur, cette force, la première sensation qu'il fallait que je fasse et la première personne, bah heureusement que c'était mon père. Et c'est vrai qu'il y a eu ce réconfort venant de sa part, comme je fais à l'instant avec mon fils. Hop là.
Allô, papa.
Pour moi, c'est la plus belle image. Un grand monument et à côté de moi, un grand homme, tu t'imagines? C'est ma première sensation de Paris. Et j'en garderai un souvenir extraordinaire.
Vous vous rappelez de la première fois où vous avez été à Paris?
La première fois quand je suis venue, j'ai pris l'avion de Constantine vers Marseille. On est descendu à Marseille, à Marignane.
Avec votre mari.
Ah oui. Et puis quand on est venu ici, par train, on a pris le train. Et quand on est arrivé à Paris, vers la gare de Lyon, c'était beau, c'était magnifique. Quand j'ai vu ça, les gens qui vivaient, j'ai visité un peu partout. Et après, avec lui, on est parti dans un chic restaurant. On a pris un café à drugstore la nuit, je me rappelle très bien. On a passé une nuit dans un hôtel. C'était vraiment magnifique. Puis c'était.
Vous aviez quel âge?
J'étais très très jeune. J'étais jeune, je suis venue un peu jeune ici. Très jeune. J'étais très très jeune quand je suis venue ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. Après, une fois quand j'ai visité Paris, j'ai vu les gens, comment ils vivaient, les femmes, comment elles étaient habillées. Pas dévergondées, mais quand même, c'était chic de voir des femmes comme ça. Des gens, ils étaient simples, mais elles étaient bien habillées. Les femmes, elles étaient libres. Elles avaient beaucoup de choses. C'est-à-dire, elles avaient beaucoup plus de veine que la femme algérienne, parce que nous, on vivait toujours sous la coupe du mari ou sous la coupe de la famille. Alors c'était là que ça m'a tapé. Je dis, ah là là, si je pouvais rester à Paris. Et je suis restée à Paris. Je ne pouvais pas partir de Paris. Paris, elle a une histoire. Hein. C'est une belle histoire, Paris, attention. Hein. Cette histoire-là, elle est là, on la voit, c'est réel. Comme l'Arc de Triomphe, comme le château de Versailles, comme la tour Eiffel aussi, elle a une histoire aussi, il y a une bonne histoire aussi. Et ça, ça fait beaucoup plus de... C'est une ressource pour les Français. Ils sont, comment vous expliquez, les Français, ils ont un peu de fierté pour ça. Et ça, c'est bien. C'est une bonne histoire. Ils ont la tête haute. Il faut qu'ils soient, hautains. Ils vous disent, voilà, on a une belle histoire. Il y a telle chose qui a été fait et créée par telle personne. Vraiment, c'est une fierté pour eux. Avec ses cafés, avec ses restaurants, avec... c'est chic, c'est magnifique. Il y a des gens qui... Je préfère mieux Paris que, par exemple, partir dans un autre pays. C'est très beau Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les gens qui viennent à Paris, ils viennent une fois, ils le retournent.
Moi, ce qui m'avait surtout surpris, c'est de voir le Paris cosmopolite aussi. Il y a au moins une ville où l'antiracisme a gagné, quoi, où il y a enfin, et de voir des gens s'embrasser, des couples mixtes. J'ai adoré Paris pour ça, parce que je me disais, on a gagné, quoi.
J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux j'ai compris que dans la ville de pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air,
ceux qui veulent s'aimer.
Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Sait-on jamais avec le hasard. Les plus beaux, la plus belle phrase du cinéma par la plus grande Arletty, sait-on jamais avec le hasard. Et c'est ça la ville. La ville, c'est ça, c'est qu'on sait jamais, il y a le hasard. Et voilà pourquoi, eh bien, ces femmes de la Courneuve racontent leur pari à elles, leur premier pas dans ce pari. Dila Tebi, notre copain, a choisi des beurettes, vous avez compris, des femmes d'origine du Maghreb, bien souvent d'Algérie, et qui nous raconte leur Paris. La première fois qu'elles ont vu Paris, elles qui habitent aujourd'hui à la Courneuve, et ben voilà, oui, c'était la libération, on osait, parce que bah, y a le carcan de la famille, il y a le carcan des bons hommes, il y a le carcan du papa, il y a le carcan des frangins, et tout d'un coup, ben, on est une femme, et puis voilà, on est un peu la jolie môme, il y a des regards qui vous suivent, qui vous accompagnent, on découvre un autre monde, on découvre ben, que sait-on jamais avec le hasard.
Pour moi, ma première fois réellement, je pense que c'était la première fois où je suis venue, c'était la découverte de Paris en manifestation. Ouais. C'était, je pense, en 77, je crois. Ouais, j'avais à peu près 18 ans. La première fois que je suis venue, pour moi, c'était vraiment la découverte de Paris. Bah ouais, la rebelle, la rouge. Je suis venue pour manifester. Je me rappelle que c'était à l'époque où il y avait des gros licenciements dans le Nord. J'étais à la jeunesse communiste et... on était montés, on avait beaucoup monté, manifesté à Paris contre la casse de la sidérurgie dans le Nord, parce que c'était notre combat. C'était déjà fini, les puits de mine, et on voulait pas qu'on recasse toutes les grandes usines comme Usinor à Dunkerque et à Valenciennes. Paris à moi, ça a été ça. Ça a été le Paris de la révolte et tout. Moi, je connaissais pas du tout Paris. Moi, je suis pas rentrée avec le car ce soir-là, et d'abord, c'était la première fois où je découchais. On avait envie de connaître autre chose que nos frères, quoi. C'était peut-être aussi ça, l'attrait de Paris. Moi, c'est pas méchant contre mes frères, mais ni leurs copains. Mais bon, de connaître aussi des garçons avec qui on pouvait discuter d'autres choses. Et voilà, le soir, c'était Paris by night. Un peu coco, un peu...
Ouais, c'est-à-dire
bah, on s'est baladé, on a beaucoup marché à pied. Et,
c'est ça, Paris by night, quand t'as la jeunesse communiste.
On marche beaucoup, c'était super. D'abord, on était fauchés quand même, donc on avait beaucoup ramassé nos sous, et on a beaucoup marché, on a été beaucoup au quartier latin, ça je m'en rappelle. Le quartier latin, à l'époque, c'était pas les briocheries et les croissanteries d'aujourd'hui, c'était vraiment le quartier latin. Moi, c'est le quartier latin tel que je m'en rappelle, c'était surtout ça. Moi, c'est ce souvenir-là que j'ai, quoi. Beaucoup plus de librairies, plus de trucs. Peut-être parce qu'il y avait aussi plus d'arabes que je voyais pas d'habitude dans ma ville. Enfin, des arabes un peu intello, des arabes avec qui on avait plus envie de discuter. Peut-être, il y avait peut-être aussi ça. Je vais encore au quartier latin. Ouais. Pour la nostalgie. Il y a encore quelques boutiques que j'aime bien. Mes boutiques de vêtements, tout ça. Bon, parce que j'ai un... Voilà, les boutiques indiennes et tout, parce que je suis, moi, baba cool. Hein.
Ouais, ouais. Donc, la tenue.
Voilà. Donc, je vais m'habiller là-bas, tout ça. Moi, ce qui m'avait surtout surpris, c'est de voir le Paris cosmopolite aussi. Parce que moi, je venais d'une cité minière où, par exemple, il n'y avait pas de blacks. Je voyais beaucoup, beaucoup de blacks. Et je voyais surtout des couples mixtes. Que moi je connaissais pas. À la limite, le peu de couples mixtes que moi je voyais, c'était polonais-arabe, parce que dans notre cité, c'est ce qu'il y avait. Mais j'avais jamais vu, par exemple, des couples black français. Et ça m'avait agréablement surpris, parce que moi j'étais très très pro Malcolm X et Angela Davis. Et ça m'avait beaucoup réconforté. Et j'ai adoré Paris pour ça, quoi. J'ai adoré parce que je me suis dit, il y a au moins une ville où l'antiracisme a gagné, quoi. Où il y a enfin, et de voir des gens s'embrasser, des couples s'embrasser. J'ai adoré Paris pour ça, parce que je me disais, on a gagné, quoi.
Mais alors justement, est-ce que tu t'es senti à côté de la plaque, quoi, quand tu t'es retrouvé à Paris et que tu as vu que c'était complètement différent et puis que les gens n'étaient pas forcément malheureux?
Bien sûr, je me suis sentie à côté de la plaque. Ben, on se sent complètement arriéré devant les filles, notamment devant les Françaises et tout. Puis on n'ose pas tout avouer devant les filles, les Françaises qui étaient avec nous dans le groupe et tout. On se sent vraiment arriéré par rapport à elles. Parce que après, je doutais que même mes copines qui étaient venues avec moi du Nord, elles devaient être comme ces filles-là, comme les Parisiennes, elles devaient être évoluées, elles devaient être libérées comme celles que je voyais et tout. Et là, du coup, moi, ça me mettait complètement en porte-à-faux avec mes copines et je me disais, oh là là, le retard que j'ai et tout, bien sûr. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était aussi beaucoup de bluff, hein, parce que ce ne sont que des apparences, hein, parce que la liberté, malheureusement, c'est pas ça. Ça fait 25 ans que je vis ici et la liberté et des Françaises et des Parisiennes, j'en suis revenue, quoi. En tout cas.
Comment ça? C'est quoi cette idée?
La liberté, c'est pas boire un whisky dans un café, ni fumer une cigarette à Paris, dans un café à Paris. Je pense que la liberté, c'est autre chose, quoi.
Et pourtant, c'est ce qui t'avait marqué, quoi.
Voilà, bien sûr, c'est ce qui marque. Bah oui, une femme attablée à une terrasse de café à Paris à 3 heures du matin, ça fait femme libre. Et pourtant, ça ne l'est pas. Mais quand on a 17, 18 ans, c'est un marqueur de liberté, quand même, c'est vrai.
La première fois, je suis partie avec mes parents. Le soir, on est parti à côté du Champs-Élysées. On a vu la Tour Eiffel. On est passé à côté de la Tour Eiffel. Mon père, il nous a regardé où la princesse, elle était morte. Ensuite, on est parti vers un endroit où il y avait une bande de voyous. Il y avait des lumières. Ils prenaient des cigarettes, de la bière. Et moi, j'ai dit à mon père, viens, on part à la maison. Après, on est parti.
Et il y avait qui dans la voiture?
Ma sœur, ma petite sœur, mon frère, moi, ma mère, mon père et mon chat.
Vous avez pris votre chat avec vous?
Oui.
Tu te rappelles comment tu t'es habillée? T'as mis tes beaux habits?
Avec une robe, avec un sac et mon manteau. J'ai mis du parfum. Mon chat, je lui ai mis un petit truc bleu parce que c'est un garçon. Et mon frère, il a mis un costume. Ma grande sœur, elle a mis une robe arabe. Ma mère, elle a mis une djellaba bleue.
Et ton papa, il est habillé comment?
Avec une chemise et un pantalon noir.
Qu'est-ce que t'en penses de cette ville?
Le Champs-Élysées, c'est bien, la Tour Eiffel, mais quand on est passé vers à côté des voyous, j'ai dit, ça doit être pas bien.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous feriez votre ticket
pour... Oh, ça va, tu vas pas me faire chier.
Ah ouais, j'ai pas de ticket, alors. Elle est pas belle, la vie. Bah, je rentre comme ça.
Fini les cocktails, Malakoff, les idées de Marx, je dors moi, tu rames, but, alors Chaumont plutôt que faire le Valois. Le volontaire pour l'école militaire, y'a mal donne. Plutôt crevé que donner sa sève à Babylone. Ça se passe ici, ça te fait rhinoplastie. Tu vois une belle porte quand Jacques le bon sergent garde sa bagnolette devant ma porte
d'Orléans.
Merdeur, un flic terne, sans odeur. Raconte un monceau de clichy que tout le monde connaît, Pasteur. On s'en bat, Marcel, on a le Perrault, les billes, on Courcelles qui font les Yana. Les cartons Vavin souhaitent la bienvenue à Montparnasse. Faut que j'une mes bourses, rue de la pompe. Mon piquet dans ta motte, mon galet dans tes trompes, ta châtelet pourri sans la poisse. C'est de la chair en ton, c'est pas du Luxembourg, fille du calvaire. J'ai attrapé de l'exhalement, c'est d'enfer. Je prends le chemin vert, au lieu de trocade, l'héros à blanc, j'inspire le bel air. Change de commerce, ton client court dans ta cité. Pour 20 grammes de hashish parmentier, pour chercher le Havre, pour Camarté, monter jusqu'aux Champs-Élysées, pour Comatec. Sont la grande arche de la défonce, alors laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Les sons de bon rail en duplex, tu quêtes la rapée. Odéon, joue nos vies, c'est Saint-Nazaire. Laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Les sons de bon rail en duplex, tu quêtes la rapée. Odéon, joue nos vies, c'est Saint-Nazaire. Laisse-toi bercy. Hey.
Monsieur, votre ticket.
Oh, quoi, hein? Ramène pas ton Kléber, ne cherche pas les Tuileries. J'ai pas l'air à Spa, y'a ce petit jeu Gabriel Péri. Tu dis que t'es fâche, que t'as pas Saint-Clou. Mon œil, ça se voit sur ta gueule que tu portes le maillot d'Auteuil. Me fais pas gobelin, sensier de la daube en bâton. Comme des piques busquettes, on va de Barbès, t'es Louis Blanc. Choisis le roi, moi je pour la reine, Port-Royal. T'as voulu la couronne, maintenant tu peux toujours tracer à Varennes. Charonne, Voltaire, pars sous la guillotine. On te retrouvera à Bastille, pas le temps de t'exiler à Argentine.
printemps. Je fais du gommier en branchant à la fourchoche la côté. Pour Saint-Sulpice, c'est un crimé. Sentier, puis on sait ce que tu vaux. J'ai rarement vu Pyrénées Gumène. T'es condamné à errer dans le marais et faire la dragraine. T'auras beau mettre l'arrêt au mur Sébastopol, tu feras prendre à l'envers à la station Anus. Par Saint-Paul à Besse, le froc Gambetta. Il te met son Jourdain, son Ménilmontant, c'est du rock. Tout droit dans l'Haussmann, la Dossénie, la Clichy, tu gémis. T'es invalide, t'as le trou de ballard, enferme et je ris ici. Va te faire masser, n'a pas Edgar le kiné. Faut qu'on t'opéra, trop tard t'es sa mort et je porte des lilas. Sur ton corps bizarre, direction Père Lachaise. Sablon, le Champéret, qui ont ton nom de la ligne 13. Laisse-toi verser par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Les sons de mon rail en duplex du guette la rapée. Odéon, Junovis et Saint-Lazare. Laisse-toi verser par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Les sons de mon rail en duplex du guette la rapée. Odéon, Junovis et Saint-Lazare. Laisse-toi verser par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. C'est son bon rail en duplex du quai de la rapée. Odéon, Junovis et Saint-Lazare. Alors laisse-toi bercer par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. C'est son bon rail en duplex du quai de la rapée. Odéon, Junovis et Saint-Lazare. Laisse-toi bercer.
Je me souviendrai, ma première sortie à Paris, j'avais 15 ans. Alors, on est parti d'ici, et après 2h de l'après-midi, on a pris le RER, on est descendu à Saint-Michel, et on a été tout d'abord au Panthéon. À le Panthéon, pour moi, c'était comme nos profs de français nous le racontaient, hein, les grands écrivains, les grandes personnalités françaises qui étaient exhumées. Et la première chose que j'ai vue, c'est la tombe de Victor Hugo. Et Victor Hugo, c'était quand même l'écrivain préféré de ma prof de français en 3e. Et ses bouquins, ben, je les ai adorés. Donc, c'était quelque chose de rentrer dans ce monument-là. Puis après, on a été manger une glace dans un café. Les cafés ici en banlieue, il y a que les hommes qui y rentrent et c'est tout. On passait devant les cafés, on courait, on avait peur. Et là, c'était être sur la terrasse, manger une glace. C'est vrai que les prix sont un peu plus chers qu'ici, mais c'est vraiment la liberté, manger une glace dans une terrasse, boire un café, et c'était assez magique. C'était quand même le cafetier qui avait sa serviette sur son bras, son petit plateau. Qu'est-ce que je vous sers ? T'avais un menu devant les yeux. C'était une journée de liberté. Et moi, c'est ça que j'aimerais qu'on m'explique. De quel droit un homme, il pourrait sortir et la femme ne pourrait pas le faire? En quoi? C'est vrai, il y a une différence de sexe. Et alors? Et ça, moi, je l'accepterai jamais. Moi, je me laisserai pas faire. Et même si aujourd'hui c'est dur, je dis que je veux me cacher ou quoi que ce soit, je pense que à partir du moment où la liberté, je l'ai acquise dans ma tête, où je me dis que quand même, je fais ce que je veux, même si je le fais un peu en cachette.
Qu'est-ce que tu fais en cachette?
Sortir avec des garçons en cachette, c'est banni, c'est banni. La fille n'a pas le droit à l'amour. La fille, même pas l'amour. La fille n'a pas le droit à avoir ne serait-ce qu'une relation. Non mais attends, toi avec un garçon, mais ça va pas ou quoi? Le premier homme de ta vie sera ton mari, un point c'est tout.
C'est comme ça que tu le prends, toi?
Bien sûr que non, bien sûr que non. Moi, je le prends pas comme ça. Hein. J'ai déjà eu des garçons dans ma vie, et ça se fera encore.
Mais en cachette toujours?
En cachette toujours, malheureusement, ouais.
T'étais habillée comment? T'avais une tenue spéciale? Est-ce que pour toi, c'était le... Attends, je vais à Paris, quoi.
Oui, c'était je vais à Paris, mais en même temps, j'avais pas une tenue spéciale. Non, j'étais en jean, j'étais en basket, et je crois même que j'avais une casquette. Donc, donc c'était pas spécial. Non.
La banlieusarde, le cliché.
Oui, le cliché, la banlieusarde, mais en même temps, non, ça faisait pas parce que c'était peut-être la casquette qui était un peu hors. Ça collait pas, mais sinon, non, ça faisait pas très bon genre. Mais c'est vrai qu'on était assez impressionnés, donc on essayait de parler fort, de se montrer, de dire qu'on était là, qu'on était même si on était de la banlieue.
C'est comme ça que tu réagissais, toi?
C'est, je disais, ouais, mais attends, viens là. On était sur le bord de la scène, on prenait des photos. Alors on prenait des poses de grandeur quand même. On était quand même des nanas, mais on voulait montrer que on était sur Paris, qu'on faisait les touristes et qu'on faisait des photos. Et c'était, allez, prends-moi comme ci, comme ça. Et c'était, non, c'était bien.
T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qu'est ma boule, joli môme.
En fait, j'étais pas aussi bien dans ma peau parce que les gens nous regardaient quand même. Faut le dire la vérité, on débarquait avec nos baskets, nos casquettes, nos jeans et on était des blacks, des beurs. Moi, je suis beurre et on arrivait là et les gens nous regardaient quand même. Et dans le café, on était, je crois, les seuls blacks ou les beurs. Donc, question mixité, c'était pas non plus ça. Peut-être qu'on n'a pas choisi en même temps le quartier où on pouvait trouver le plus de blacks ou de beurs. On était dans le cinquième, mais quand même, c'est vrai que ça m'avait un peu titillé et un peu fait mal au cœur. Ouais.
Comment ça, mal au cœur ?
Ben, je me disais, parce que pour moi, Paris, c'était la liberté, c'était la mixité, c'était sortir de la banlieue où la femme, ben, c'était un peu pour elle une prison. Je me disais, ben, à Paris, le beurre, ce ne sera pas sa prison, Paris. Et en fin de compte, les stéréotypes existent, et à Paris également, même si pour moi, c'était question de liberté, quoi. Et Paris, ben, c'est pour les privilégiés quand même. Mon père est ouvrier, on est 9 enfants, mon père pourrait jamais payer un loyer et pouvoir nous éduquer, nous acheter à bouffer, payer les factures, c'est inimaginable. Donc ça reste quand même, c'est des gens qui gagnent bien leur vie, qui n'ont pas beaucoup d'enfants et voilà. Et puis ma mère à Paris, moi je le consomme et les gens ne pourraient pas le concevoir dans la mesure où ma mère ne parle très peu français. On se débrouille avec les mots qu'on connaît, hein, mais n'écrit pas le français, ne lit pas. Donc quand on va chez le médecin, c'est moi qui vais avec elle. Et puis les médecins maintenant des centres de santé ont l'habitude des gens de banlieue. Mais à Paris, un médecin privé, j'ai du mal à concevoir qu'il pourrait dialoguer avec ma mère qui parle pas français.
Dedans, dehors, inclus, exclu, Paris et autour, la banlieue, pas si facile. On le voit bien, le clivage. Le clivage entre Paris et autour de Paris. Comment ces jeunes femmes, pas toutes jeunes d'ailleurs, qui habitent la cité des 4000 à la Courneuve, donc tout près de Paris, ont vu Paris la première fois. Comment elles se souviennent de cette découverte, cette conquête de ces possibles qu'une ville constitue. Et puis c'est pas facile parce que c'est la ville du pouvoir, c'est la ville de la bourgeoisie, c'est la ville où le peuple est parti ou en voie de disparition. C'est vrai que c'est une ville qui s'est beaucoup embourgeoisée au cours des dernières décennies, mais le charme opère encore, pas toujours cependant.
À Paris, moi, je suis rentrée en 80.
Rentrée en 80 d'où ?
D'Alger. Je suis venue à Paris. J'avais que ma fille avec moi. J'avais mon fils qui est resté en Algérie. Non, j'ai souffert au début. Hein. J'ai un peu cavalé, comme on dit, pour commencer ma vie à zéro. Dès que je suis descendue, j'avais personne qui est venu m'accueillir. Je suis venue en taxi. Je commence à lui poser des questions et il m'a répondu, il m'a donné tous les détails, comment prendre le métro, comment prendre les taxis, comment il faut, et comment même téléphoner pour avoir un taxi qui vient à domicile. Je connaissais pas tout ça. J'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou j'ai fait une faute ou est-ce que j'ai bien fait de venir? J'ai eu peur, j'ai vu que c'était immense. C'était trop grand pour moi, ça a rien à voir de ce que j'ai vécu. Je voyais le monde autrement que chez moi. Que nous, ça a rien à voir avec ici. On n'avait pas la liberté, on pouvait pas voir ce qu'on pouvait voir ici. On pouvait pas sortir, on n'avait pas le droit de s'habiller comme on veut, ni se maquiller, ni de faire comme ils font les jeunes ici. Hein. On était tout le temps enfermés, c'était ça et sans plus.
Mais alors pourquoi vous avez eu peur quand vous êtes arrivé à Paris?
Il y avait trop de monde, je voyais pas mal de gens, je voyais des métros que j'ai jamais connus de métro, je voyais des taxis, je voyais des voitures, je voyais un monde, il y avait beaucoup de foule pour moi et j'ai eu peur. Mais j'ai dit, est-ce que j'arriverai à m'en sortir? Est-ce que je parlerai bien le français? Il y a eu pas mal de choses. C'était dur. On me cherchait un soupal. J'ai souffert. Bon, j'ai trop souffert. Je voyais le paradis, moi. On parlait de Paris. On peut travailler comme on veut. On peut vivre comme on veut. On est libre. Le paradis est total. Une fois arrivé ici, j'ai compris.
Vous êtes retourné sur Paris?
Ouais, maintenant je vais à Paris comme si je la connais comme un poche, Paris maintenant. Et c'était sacré pour moi pour aller au Sacré-Cœur. C'était l'endroit le plus charmant pour moi de m'asseoir là-bas et regarder Paris entière au Sacré-Cœur. Je montais là-haut et je restais. Et il y avait des barreaux comme ça. On peut se pencher et voir tout Paris, surtout le soir. C'est lumineux, c'est beau, c'est immense. J'aimais voir les choses en hauteur. J'aimais bien Paris, c'était beau le soir.
Mais pourquoi j'aimais bien Paris? Pourquoi vous parlez au passé?
Parce que maintenant, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien parce que ça a changé, c'est plus comme avant.
Alors et vous, quand vous entendez Paris, la plus belle ville, la ville de l'amour?
Je crois pas à ça, moi. J'entends dire ça, ça me donne envie de rigoler. Hein. On aurait dit que ces gens-là, ils sont venus directement, ils ont trouvé ça facilement. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Ça, c'est pour les gens qui ont les moyens de vivre, hein, qui viennent directement avec leur portefeuille bien craqué à bout. Et là, ils peuvent dire que c'est une ville où on peut vivre, on vit dans la gaieté, dans l'amour, dans la joie. Et il faut connaître les gens qui vivent ici. Moi, je trouve que Paris, c'est très beau, mais c'est les gens qui sont méchants, c'est tout.
Avec le plus de classe
Paris,
où sont les gosses avec le plus de liasses
Paris,
où sont les caisses avec le plus de passe? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de charme?
Paris,
où sont les gosses avec le plus de classe
Paris,
où sont les gosses avec le plus de liasses
Paris,
où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars?
Paris, c'est Paris capitale, emprunte à voir rapide.
Paris,
va dans des quartiers chics et croise des stars du King.
Paris,
je fais le tour du monde comme du périphérique et redécouvre des endroits féeriques dans cette ville lumière qui vit la nuit aussi. Ces filles très belles remplies d'esprit, strass et paillettes, boule à facettes qui brille. Soirée fashion full, la basket qui crie.
Paris, tu trouveras tout ce que tu veux. Dans les assiettes il y en a trop, on dit bouge ce que tu veux.
Paris,
Paris est une ville de marque où vie de star prend tout son sens. Car
Paris
est une ville de marque, comme mes vêtements dans lesquels j'ai mis du cash. Tout va trop vite ici, formule un papisse de carte. Désolé te rappeler que Paris est une ville de bâche.
Où sont les gosses avec le plus de classe
Paris,
où sont les gosses avec le plus de liasses
Paris,
où sont les caisses avec le plus de passe? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de charme?
Paris,
où sont les gosses avec le plus de classe
Paris,
où sont les gosses avec le plus de liasses
Paris,
où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars?
Paris réalisera tous tes rêves, viens faire un tour du côté de la tour Eiffel.
Paris est la plus belle ville sur terre, pur restaurant, fille super.
quartier chic, ça transpire encore plus le fric qu'aux Amériques.
C'est vrai.
Dans les rues, tu comprendras très vite d'où viennent les filles les plus jolies. Bon appétit.
Paris.
La meilleure musique du monde sort d'ici. On est en avance de 10 ans dans la plupart des styles. Je ne te prends pas pour un imbécile. Dans notre ville, tu danseras toute la nuit jusqu'à devenir amnésie. Gratte-ciel, casino, bordel, cabaret. Pour dépenser ton cash, Paris est l'endroit parfait. Pas la peine de remettre ça en cause. Les autres capitales ne valent pas grand chose.
Où sont les gosses avec le plus de classe?
Paris.
Où sont les gosses avec le plus de liasses?
Paris.
Où sont les caisses avec le plus de passe? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de charme?
Paris.
Où sont les gosses avec le plus de classe?
Paris.
Où sont les bosses avec le plus de liasses?
Paris.
Où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars?
J'aime en or autour du cou, la foule m'appelle. Les Parisiens sont toujours là pour foutre la merde. Terre entière essaye d'être nous. Les autres villes ne font que rêver d'être cool. Tu cuisses sur les Champs-Élysées. Quand tu descends la ville, tu vois des gens déguisés. Tellement ils sont beaux, tellement ils sont gros. Tu n'en crois pas tes yeux, tellement ils sont trop.
La Parisienne est chic, ma Parisienne est chiche. Et comme cette ville est belle, oui j'y capitalise. Dans mon arrondissement et dans le tien aussi. Pour mon enrichissement, je lutte et je mise.
Paris.
C'est le luxe, j'ai des muses dans le jukebox. Et des lustres qu'on diffuse ma musique dans les clubs. Ça m'amuse, Paris eux sont les subs. On déguste la ville, l'envie, l'anguille, tu l'ennuies.
Où sont les gosses avec le plus de classe?
Paris.
Où sont les gosses avec le plus de liasses?
Paris.
Où sont les caisses avec le plus de passe? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de charme?
Paris.
Où sont les gosses avec le plus de classe?
Paris.
Où sont les bosses avec le plus de liasses?
Paris.
Où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars?
Paris.
Où sont les gosses avec le plus de classe?
Paris.
Où sont les bosses avec le plus de liasses?
Paris.
Où sont les caisses avec le plus de passes? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de charme?
Paris.
Où sont les gosses avec le plus de classe?
Paris.
Où sont les bosses avec le plus de liasses?
Paris.
Où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de
Et ben voilà, merci à tous. C'était un reportage de Dila Tebi. Merci à Mimouna, Linda, Afissa, Jaïda, Zora, Jamila. Et puis n'oubliez pas ce soir le Surnatural Orchestra et El Kirfi Marcel qui joueront place Ménilmontant à 21h à Paris. Ça se passe ce que je vous dis là dans le cadre du festival des musiques de Ménilmontant qui se déroule jusqu'au 25 mai. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Il me reste quelques instants pour vous parler de quelques bouquins qu'on a reçus, à commencer par celui de Luc Richard sur Pékin. Pékin 2008, pourquoi la Chine a déjà gagné. Luc Richard, c'est notre ami qui vit à Pékin, qui a été notre traducteur et notre fixeur lors de longue suite de reportages qu'on vous a présenté l'an passé. Et là, il publie ce bouquin aux éditions Mille et Une Nuits, Pékin 2008, pourquoi la Chine a déjà gagné. Voilà, comme ça, c'est réglé. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là, l'ami Luc Richard? C'est que sur le plan du développement, sur le plan de la croissance, c'est gagné. Ça y est, la Chine est une très très grande puissance. Mais évidemment, à quel prix? À ce qu'on avait montré dans ses reportages, Luc le montre d'une façon encore plus détaillée et plus proche encore des gens et du terrain, mais il n'oublie pas, il ne met pas de rappeler que cette croissance formidable de la Chine, elle est aussi le résultat des investissements étrangers, des investissements des multinationales, des transnationales, y compris des entreprises françaises. Il y a un livre sur un thème voisin qui s'appelle China Blues, China Blues, comme vous voulez, de Si Huan Wu et de Charles Rive, qui traite un peu du même sujet sur l'atelier du monde qu'est devenue l'Afrique. Et puis, un livre qui s'enchaîne aux deux précédents, qui s'appelle La Chine-Afrique. La Chine-Afrique, comme on disait la France-Afrique, mais maintenant on va dire la Chine-Afrique, c'est-à-dire ce phénomène qui se déroule depuis quelques années mais qui commence à frapper beaucoup les imaginations, c'est la conquête de l'Afrique noire par les Chinois, par des entreprises chinoises. Pékin à la conquête du continent noir. Et ça, c'est pas rien. Puis un dernier encore, là, cette fois-ci, on repart de l'autre côté, sur l'Amérique latine, le volcan latino-américain. C'est une suite d'auteurs qui racontent ce qui se passe actuellement en Amérique latine, ce basculement vers la gauche, du rose au rouge. La technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Yann Chouquet et Coyen Guyen ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Fimbert. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Il est 16h sur Inter, on se retrouve un de ces jours. Je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut.